RJB Info.
Le journal, Lydiane Guenin.
Bonjour. Les camps de ski sont déconseillés par le canton de Berne. Même si la décision finale appartient aux communes, la direction de l'instruction publique et de la culture recommande d'annuler ces séjours à la neige en raison des risques que cela comporte au niveau sanitaire. Le conseil de ville de Bienne version 2021 se retrouve pour la première fois de l'année ce soir. Et au programme, beaucoup d'élections. Séverine Boué nous donnera plus de détails. La pression est forte sur le Conseil fédéral aujourd'hui. Il doit décider de prolonger ou de renforcer les mesures pour lutter contre le coronavirus, mais aussi présenter un plan d'indemnisation plus efficace. La conférence de presse se tiendra cet après-midi. Du côté de la météo, les précipitations vont revenir cet après-midi sous forme de pluie, en tout cas en dessous de 1000 mètres. La limitation des chutes de neige qui pourrait descendre un peu pendant la nuit prochaine. Sven vous donnera plus de détails après ce journal. Les camps de ski ne font pas bon ménage avec le Covid-19. La direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne recommande aux établissements de la scolarité obligatoire de renoncer jusqu'à nouvel avis à l'organisation de ces séjours à la neige. Le dernier mot appartient toutefois aux communes qui sont autonomes pour la mise sur pied des activités. Vos précisions, Émilie Moumentaler.
À l'heure actuelle, les autorités bernoises n'interdisent pas l'organisation des camps de ski. Mais au vu de la situation sanitaire liée au coronavirus, il est fortement déconseillé que les élèves et leurs enseignants dorment ailleurs que chez eux. C'est ce que nous a confié Steve Blaisy, le chef de l'école obligatoire pour la partie francophone du canton. La direction de l'instruction publique et de la culture n'encourage pas activement les écoles à annuler leur séjour à la neige, mais leur recommande d'y renoncer en raison des risques élevés qu'ils représentent. Si un établissement veut tout de même organiser un camp, il doit être en mesure de répondre à plusieurs problématiques. Ces dernières concernent la capacité d'accueil, du logement choisi, la garantie des mesures d'hygiène ainsi que du traçage. Les accompagnants doivent aussi être préparés à réagir si des symptômes ou des maladies se manifestent pendant l'excursion. La DIP ne voit par contre pas d'inconvénient à la mise sur pied de journées de ski. Elle émet toutefois quelques réserves concernant le transport en commun. Il faudrait éviter le mélange des classes et établir un plan d'occupation des sièges.
Merci, Émilie. Troisième audience dans l'affaire de potentielle fraude électorale en lien avec le vote du 18 juin 2017 à Moutier. La séance s'est ouverte ce matin au tribunal régional Jura-Bernois-Seeland. Récit d'audience avec Olivier Zano.
Dans l'affaire qui nous intéresse ici, c'est un quadragénaire militant jurassien ancien élu qui est mis en cause. Je vous résume la situation. Le prévenu est arrivé à Moutier en 2003, y a fondé sa famille, mais il se sépare en 2013 dans un contexte compliqué. Il entretient alors une relation cachée avec une jeune femme de 20 ans, loue un appartement en Ajoie pour la voir secrètement, une garçonnière comme il le dit lui-même avec 1500 francs de mobilier. Mais sa vie est à Moutier, ses enfants, ses amis, ses activités, ses enfants. Engagement aussi. Un couple d'amis lui propose une sous-location dans un appartement prévotois pour une bouchée de pain. Une colocation polémique puisque les propriétaires ne vivent pas vraiment là. Ils ont d'ailleurs été condamnés pour fraude électorale par ordonnance pénale. L'avocat du prévenu a longtemps insisté. Son client n'a pas voulu tricher. La colocation a d'ailleurs été prise en 2013 alors que la date du vote sous l'appartenance communale de Moutier n'était pas encore connue. Le prévenu habite toujours à Moutier. Le procureur, lui, estime que la colocation n'a jamais représenté une résidence, mais plutôt un domicile fictif. Un verdict du tribunal cet après-midi.
Les deux premiers procès de cette série concernant des soupçons de fraude électorale se sont soldés par des non-lieux. Trois autres audiences pénales vont suivre ces prochaines semaines à Moutier. Quatre instructions ont quant à elles abouti à des condamnations par ordonnance pénale. Les nouvelles autorités biennoises se réunissent au complet pour la première fois en 2021. Le conseil de ville se tient dès ce soir au Palais des Congrès à Bienne. Il s'agira surtout pour cette première séance d'élire les membres du bureau et des commissions. Les précisions de Séverine Boué.
Comme le veut la tradition et surtout l'article 31, alinéa 2 du règlement de la ville, le conseil municipal, après de nouvelles élections, doit convoquer le nouveau parlement au mois de janvier. Ce soir, c'est le membre le plus âgé du conseil de ville, soit le vert Bénédicte Loderer, qui commencera par présider la séance. Il désignera deux membres du législatif comme scrutateurs et dirigera également l'élection à la présidence du conseil de ville. C'est Salomé Strobel du Parti Socialiste à qui devrait incomber cette tâche. C'est elle qui dirigera ensuite ensuite les élections des membres des diverses commissions. Les élus pourront alors entrer dans le vif du sujet. À noter encore qu'il s'agira de la première séance du Conseil de ville en tant que membre de l'exécutif pour Glenda González-Bassi et Lena Franck.
Forte et double pression sur le Conseil fédéral qui est en séance aujourd'hui. Pression concernant les mesures sanitaires pour tenter non seulement d'endiguer mais aussi de réduire la propagation du coronavirus. Faut-il les prolonger ou les renforcer ? Pression aussi pour présenter un plan d'indemnisation plus efficace des victimes économiques des fermetures imposées. En plus des exigences formulées par les différents acteurs, le Conseil fédéral subit la pression de la Commission parlementaire de l'économie du Conseil national. À Berne, les explications de Serge Jubin.
Ajoutez au tableau qui confine au casse-tête une lecture difficile des chiffres de contamination. Ils sont en légère baisse depuis le début de l'année. On est passé d'une moyenne quotidienne de plus de 4000 nouveaux cas en décembre à moins de 3000, mais ce nombre reste élevé et problématique. Vous le disiez, la puissante commission de l'économie du Conseil national a formulé ses recommandations au Conseil fédéral. Concernant les mesures sanitaires restrictives, elle s'oppose à un renforcement, surtout préventif. Pas question de fermer les magasins non essentiels ou les écoles, de contraindre au télétravail ou de limiter les réunions privées au principe des deux ménages. Ces recommandations ont été prises à de courtes majorités libérales, en gros de 12 contre 10. On s'attend ainsi à la concrétisation des annonces faites par Alain Berset il y a une semaine. Le Conseil fédéral devrait donc décider de laisser les restaurants fermés jusqu'à fin février, comme les lieux de culture, de sport et de loisirs, sans nouvelle fermeture. L'autre enjeu, c'est celui urgent des indemnités aux acteurs économiques victimes de fermetures forcées. La commission a été unanime pour exiger l'assouplissement des conditions d'éligibilité au droit à l'indemnité à fonds perdu et surtout que les demandes soient traitées rapidement, sans chicane bureaucratique et que les aides soient versées au plus vite.
Et parmi ces acteurs obligés de cesser leurs activités, il y en a bien sûr les cafetiers et les restaurateurs. Face à la menace d'une fermeture prolongée jusqu'à la fin du mois prochain, ils ont fait leurs calculs et ont adressé des demandes précises au Conseil fédéral. Pour eux aussi, ces aides doivent arriver vite. Casimir Platzer, président de GastroSuisse.
En tout, il y a environ 30% des charges qui restent à l'entrepreneur. Et en tout cas, pour la période du lockdown, il faudrait absolument... Pour sauver les entreprises, pour sauver les places de travail, il faudrait que le Conseil fédéral se décide sur des soutiens, des indemnisations pour les charges courantes, pour la perte de chiffre d'affaires. Et il devrait s'élever à 30% du chiffre d'affaires de la période précédente. Et on espère que le Conseil fédéral, premièrement, va décider sur ces indemnisations. Et deuxièmement, il faudrait aussi décider sur un soutien égal dans toute la Suisse, pour toutes les entreprises, parce que les mesures pour les cas de rigueur changent de canton à canton. Et pour la période du lockdown, on demande vraiment une solution qui soit égale dans tout le pays.
Pour Casimir Platzer, l'un des problèmes réside dans le fait que les autorités peinent à comprendre les besoins de la branche. Même si la situation s'améliore lentement, on retrouve Casimir Platzer.
Tout doucement. Il faut beaucoup de discussions. Même au sein du Conseil fédéral, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas compris la situation actuelle qui est dramatique. Au mois de mars, le Conseil fédéral avait tout de suite, quand il y a eu le premier lockdown, en quelques jours, assuré que les entreprises étaient fournies avec assez de liquidités. Et puis maintenant, au mois de décembre, quand on a décidé de fermer, les entreprises étaient beaucoup affaiblies. Et pourtant, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu décider sur des indemnisations. J'espère vraiment que ce sera fait cet après-midi.
Notons que la Task Force Culture a aussi publié ses revendications ce matin. Elle demande notamment une indemnisation complète des pertes financières subies par toutes les entreprises et tous les acteurs du secteur. Le Conseil fédéral devrait venir présenter ses mesures en milieu d'après-midi. Les témoignages s'enchaînent à la RTS. Près de 220 personnes ont pris la parole à l'interne dans le cadre des enquêtes sur des cas présumés de harcèlement sexuel. La porte-parole de l'entreprise explique aujourd'hui que les bureaux concernés vont essayer de traiter ces témoignages au plus vite. Alexei Navalny annonce son retour en Russie. L'opposant politique va rentrer dans son pays dimanche prochain, après sa convalescence en Allemagne. Alexei Navalny a probablement été empoisonné au mois d'août. Il risque une peine de prison en retournant en Russie.
RJB, les midi 25.
Sport.
Henri Laaksonen disputera l'Open d'Australie. Le Chafouzois s'est qualifié ce matin pour le tableau principal de ce tournoi de tennis du Grand Chelem. À Doha, il a remporté son troisième tour des qualifications. Le Suisse a pris la mesure du Croate Borna Gojo en trois manches, 6-7, 6-4, 7-6. Henri Laaksonen intègre le tableau principal de l'Open d'Australie pour la deuxième fois de sa carrière. Ce tournoi du Grand Chelem doit commencer le 8 février à Melbourne. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite un bon début d'après-midi.
Un petit peu de météo, le point sur les pistes également dans la région et puis une naissance, c'est ce qui arrive juste avant le week-end. Et ce mercredi, le temps sera souvent très nuageux. Alors, c'était assez sec ce matin. Par contre, cet après-midi, on devrait avoir une nouvelle dégradation avec l'arrivée de fréquentes pluies et des flocons également qui seront possibles des 700 à 800 mètres. Et puis, ça va remonter petit à petit jusqu'à atteindre les 1400 mètres ce soir. Tout ça sous de fortes rafales de vent. Nous allons aussi avoir des températures qui iront jusqu'à 2 degrés maximum du côté de Saint-Imier, 3 pour Tavannes et Tramelan, 4 autour du lac de Bienne ainsi qu'à Moutier, et il fera 5 degrés au mieux à Delémont. La suite, ce sera demain selon les experts de Météo News, avec un temps maussade et pluvieux, des précipitations qui seront fréquentes et parfois continues sur le Jura notamment, un peu plus faibles au sud du massif paraît-il, surtout l'après-midi. Nous allons avoir de la neige également possible vers 1000 mètres environ dans la matinée. Ça pourrait descendre aux alentours de 600 à 900 mètres ensuite dans le reste de la journée.